sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Dieu de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à tous, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et comme tous les lundis soirs, nous allons parler de chanvre, nous allons parler de l'actualité, beaucoup d'actualité internationale, parce que l'actualité française, elle est plutôt décevante ces jours-ci.
Enfin, depuis hier 20h02.
Ouais. Bon, un peu avant aussi, mais bon.
Oui, oui,
c'est encore plus remarquable.
On s'y attendait pas. Hein.
Donc, de quoi on va parler? On va parler d'Israël où ils se rénovent. On va parler un petit peu de la Suisse où ça repart. Légalisation a repris du poil de la bête. On va parler du Canada où la légalisation va arriver. Ça sera pour l'été 2018. On va falloir attendre un peu. L'Afrique du Sud est en train de s'y mettre aussi. C'est la Cour suprême qui les oblige un petit peu à bouger. Il y a l'Australie qui décriminalise. Il y a l'État de Washington qui va reprendre des trucs pour que les gens puissent planter chez eux. Donc voilà, ça bouge quand même dans pas mal d'endroits au monde. Et puis voilà, tant qu'on sera aux États-Unis, on parlera peut-être, si on a le temps, du casse-tête des producteurs qui ont toujours des soucis avec leur liquide, avec les lois fédérales par rapport au blanchiment de l'argent. Et dès qu'une banque prend de l'argent d'un producteur de champ ou d'un magasin qui en fait, et ben hop, ils peuvent se faire tout rafler. Donc ça, c'est très 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 compliqué.
Oui, pour blanchiment. Ouais.
Et voilà. Et puis enfin, on finira sans doute sur l'Albanie, qui est quand même le plus gros producteur de chanvre d'Europe, avec 900 tonnes. Donc c'est quand même pas mal. Ça représente quasiment la moitié de son PIB. Donc c'est un pays quand même qui avait des activités mafieuses très diversifiées, de trafic d'êtres humains en tout genre.
Dans les années 90, oui.
Dans les années 90, voilà. Tout à fait. Et là, la mafia albanaise, c'est recentrée a priori beaucoup sur le trafic du cannabis, qui a l'air d'être quand même une manne financière intéressante.
Oui, puis on verra que c'est une culture qui est traditionnellement implantée dans le pays depuis très longtemps, avant même la chute du communisme.
Mais dans tout le monde entier.
Et puis oui,
en France aussi, c'était une culture.
Oui, jusqu'aux années 1920, oui. Enfin, là, en Albanie, c'était jusqu'en 1990, quoi.
Voilà, et on va le revoir avec l'État de Washington, qui aussi était un pays où il y avait beaucoup de production de chanvre. Donc ils se disent, voilà, maintenant, on enlève toutes les lois et puis la.
Ouais, c'est pour le chanvre agricole, voilà. Ouais. C'est pas pour du chanvre créatif non plus, quoi.
A priori, eux, ils ont banni la différence. Hein. Le chanvre, c'est le chanvre agricole.
C'est pas ce qu'ils disent dans l'article quand même. Hein.
Ah, je l'ai peut-être lu trop vite. Voilà.
Mais bon, on verra.
On va revenir là-dessus, on va vous en parler. Et puis, il y avait un truc en anglais, tu veux en
parler? Oui, on en reparlera en fin d'émission, un article.
Si on a le temps.
Une tribune, en fait, de David Nutt, qui était le monsieur. C'est un scientifique anglais qui faisait partie du conseil politique, enfin qui conseillait le monde politique sur la question des drogues et qui avait démissionné il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, parce qu'il avait suite à une déclaration, il avait dit que voilà, faire du cheval en fait c'est pas forcément, enfin c'est presque plus risqué que de prendre de l'extasie. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait dit ça. Ça lui avait valu des remontrances du personnel politique anglais. Et lui, ainsi que beaucoup de scientifiques, en fait, avaient démissionné du gouvernement, enfin, pas du gouvernement, pardon, avaient démissionné de ce conseil de scientifiques. Et donc voilà, donc là, c'est un article parce qu'il tire la sonnette d'alarme au sujet du SPICE, qui est produit qu'on trouve sur Internet et qui est un cannabinoïde, enfin qui est une forme, je sais pas comment on peut dire, une espèce de matière sèche qui peut être pulvérisée avec des cannabinoïdes de synthèse qui sont assez forts. Et donc voilà, il tire la sonnette d'alarme à ce niveau-là et il dit que voilà, si ça s'est développé en Angleterre, eh bien c'est notamment dû à la prohibition du cannabis.
Et il a totalement raison.
Voilà. Et donc il explique c'est une tribune qui est très intéressante. Il faut
rappeler que c'est avec la prohibition que la cocaïne a remplacé la feuille de coca, et aussi avec la prohibition que l'héroïne a remplacé l'opium.
Voilà, et en tapant.
Aussi avec l'arrivée des seringues, quoi. Il y a deux, trois autres petits éléments.
Et puis et voilà,
de la science,
comme il dit dans son article aussi, voilà, à partir du moment où on tape sur la cocaïne, on contribue à l'émergence du crack, par exemple aussi, voilà, ainsi de suite. Bon, voilà.
Sinon, avant d'écouter
de la musique, avant,
tout à fait,
voilà,
autre chose à dire.
Se trouve qu'à la fin de la semaine, là, quand même, samedi, il y a la marche mondiale du cannabis à Lyon et à Paris,
voilà.
Dans les deux grandes villes de France. On a décidé cette année de faire aux mêmes dates, donc à Paris, 15h, place de la Bastille.
Et donc le premier week-end de mai, ça sera le 29 avril.
Eh ben, cette année, on fait ça entre les deux tours, parce que justement, comme vous l'avez constaté, il y a des élections présidentielles et on a pensé au cirque à Lyon, en tout cas en Réunion. On a décidé de faire la marche mondiale cette année entre les deux tours des élections. Et vu le résultat d'hier, je pense qu'on a bien fait, en fait, de faire cette élection, cette manifestation. On a bien fait de l'organiser pour le samedi 29 avril au lieu du samedi 13 mai. Parce que c'est le 13 mai, la vraie date, entre guillemets. Et c'est le 13 mai que la marche mondiale aura lieu, par exemple, à Poitiers ou dans d'autres villes de France. Mais à Lyon, voilà, la marche mondiale du cannabis, c'est samedi, donc 29 avril, à partir de 15h. Le départ, c'est à 15h. On a mis 15h sur nos affiches. Voilà, rassemblement à partir de 14h15, 14h30, place Carnot. Départ 15h, 15h10. En passant par la rue Victor Hugo, la place Bellecour, la rue de la République, jusqu'à la rue Joseph Serlin, avant d'arriver, place des Terreaux. Voilà, donc cette année encore, nous appelons tous les canactivistes et les amateurs du cannabis de cette belle ville de Lyon et de ses environs de se joindre au cortège et donc de venir manifester pour réclamer. Quoi ? Pour réclamer, comme toujours, la fin de la prohibition du cannabis dans le monde, la libération de tous les prisonniers du cannabis et globalement l'ouverture, une ouverture en fait législative à la mise en place de solutions thérapeutiques, voilà, pour les malades, parce qu'il y a quand même en France, il faut le rappeler, plus de 2000 personnes qui souffrent et qui n'ont toujours pas accès au Sativex dans les pharmacies, alors que dans tout un tas d'autres pays européens, maintenant, on peut quand même s'en procurer, même si le Sativex, c'est pas la panacée, on le sait bien. Mais en tout cas, en France, toujours pas possible. Donc voilà, le thérapeutique, très important. Et bien sûr, le récréatif, c'est aussi important. Et en France aussi, on va le voir d'ailleurs dans cette revue de presse, il y a un article, là, une interview de Didier Fassin qui en parle un peu, de la criminalisation des usagers du cannabis qui a explosé ces 15 dernières années. Donc voilà, c'est pour tout ça qu'on manifeste,
voilà,
pour toutes ces raisons.
C'est les bugs, c'est un mouvement international, puisque ça fait partie de la Marijuana Million March.
Qui est organisée en plus de 200 villes du monde.
C'est pour ça que je disais que c'est normalement c'est le premier samedi du mois de mai, ce qui sera totalement impossible en France, puisqu'on est en pleine élection, et donc toute manifestation de ce style serait interdite. Donc, on a décidé de la faire le 29 avril, donc c'est-à-dire ce samedi qui arrive.
Oui, mais on aurait pu la faire une semaine après, effectivement, aussi. Bon, voilà, comme encore une fois, je répète, en réunion, on en a discuté, on a débattu entre nous.
On aurait pu le faire le 20 avril aussi,
ouais,
pour répondre au
Fort 20,
des 420,
ouais. Ouais.
Ou des 420.
Bon, voilà, encore une fois, vu le résultat d'hier, je trouve que sa présence un 29 avril à cette manifestation est pertinente.
Oui,
voilà, on a bien vu que malheureusement aucun des candidats qui avait inscrit à son programme le projet d'une légalisation n'est au second tour, hein. on a au mieux, entre guillemets, Monsieur Macron qui promet une contraventionnalisation de l'usage, hein, s'alignant sur les mesures un peu préconisées par la MILDECA, donc il ne prend pas de risque. Hein. Donc voilà, donc il faut... faut continuer à mettre la pression. Je ne prétends pas que à la fin du mandat du quinquennat de M. Hollande, on aura fait un peu plus de chemin encore vers la légalisation. Je pense que quand même c'est probable. Voilà, il semble être opportuniste ce Macron, voire même c'est une girouette. Hein, il a l'air de capter un peu tout ce qui semble être profitable à son à la bonne marche de son mouvement. Donc, il ne manquera pas d'entendre dans son oreille les bourdonnements des changements qui auront lieu, encore une fois, tout au long de son mandat, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Hein, t'en parlais en début de cette émission. En 2018, à l'été 2018, vraisemblablement, le Canada devrait légaliser. Donc, voilà.
Avant d'aller jusqu'à là et avant de passer de la musique, on va juste finir un petit peu sur les mouvements, parce que donc là il va y avoir les différentes Marijuana Million March dans le monde entier. Il y aura après les mois de juin avec les 18 juin avec
alors ça c'est plus hexagonal, oui.
D'autres mouvements, voilà, plus hexagonal, mais il y aura aussi d'autres mouvements qui se sont lancés en juin au niveau international.
Oui, il y a le Support Don't Punish le 26 juin.
Voilà.
Très important. Ouais.
Qui va être soutenu aussi par une autre association en France là-dessus. Donc il y aura aussi un mouvement là-dessus. Et le premier, donc, c'est le mouvement, le Rassemblement 420, qui est donc le 20
le
avril.
Le 420.
420. Voilà. Voilà. Et donc, il y avait eu un truc même en Israël, c'est bien ça, hein?
Tout à fait. Ouais, c'est le Figaro qui nous livre cette info. Voilà, ça s'est passé sur l'herbe du Jardin des Roses, proche de la Knesset. Quand ça, le 20 avril, à quelle heure? À 4h20 de l'après-midi, à 16h20.
Voilà, ils ont juste à tous allumé leur joint à 4h20.
Voilà.
Donc ils étaient une centaine d'Israéliens, ou des centaines d'Israéliens.
Dans différentes villes.
C'est pas très très clair, mais bon, ça fait au moins 200, des centaines. J'espère qu'ils étaient même presque un millier, va savoir. Voilà, mais c'est pas mal, c'est quand même rappeler quand même. Il faut juste dire que ça fait longtemps qu'en Israël il y a des mouvements là-dessus. Il y avait le Parti de la Main Verte qui avait fait différentes choses pour légaliser, qui en plus était un parti quand même assez ouvert et qui était pour la paix, voilà, et pour améliorer les tensions entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc il y a aussi des Israéliens qui pensent... ils ne sont pas tous des extrémistes, heureusement.
Ah bah,
et, voilà. Et entre autres, les fumeurs israéliens. Comme quoi, ça doit avoir des effets bénéfiques. Voilà, et Israël était aussi un des pays où il y a le plus de recherches au niveau cannabis, en particulier cannabis thérapeutique.
Parce que l'Israël a la chance d'avoir... parmi ses citoyens, le professeur Raphaël Meshulam, qui a découvert le THC en 1965.
Donc on en a pas mal parlé
cette antenne.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Israël et sur les mouvements. Donc la seule chose à retenir, samedi 14h30, place Carnot, samedi 29, donc ce samedi qui arrive.
Pour la marche mondiale du cannabis à Lyon.
Voilà, tweetez-le, écrivez-le.
Partagez-le sur Facebook,
partagez-le oralement avec vos voisins.
Ou oralement,
N'oubliez pas, et plus on sera nombreux, plus on pèsera
et plus on sera entendu.
Voilà, et je pense que, et où je te rejoins, c'est avec le Macron, je pense que le rapport de force va être important, et que là, il sera sans doute, et j'espère qu'il ne sera pas aussi bloqué que Hollande sur cette position.
Au début, oui. On verra après.
On verra.
En tout cas,
il va falloir qu'on se motive si on veut y arriver.
Oui, parce que juste avant que tu passes de la musique, juste pour passer cette toute petite info avec Monsieur Macron, je pense que d'une manière générale, il sera possible d'établir un rapport de force, quel qu'il soit. Avec Madame Le Pen, je pense que ce ne sera pas possible. Voilà. Je pense que, voilà, tout simplement, je pense que ce ne sera pas possible dans une dimension républicaine, en tout cas.
Voilà,
avec elle.
Avec Macron, ce sera un rapport de force démocratique.
Voilà.
Avec,
ça sera Madame, ça cause sera toujours.
De force violent.
Ça sera cause toujours. Avec Madame Le Pen, ça sera ferme ta gueule. Hein. Voilà, mais c'est, la nuance est de taille. Voilà, musique à tout à l'heure.
Voilà, et donc 29 avril, 15h, place Carnot. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede cambiar, porque no tiene lo que le falta, marihuana que fumar. Fumar la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene. La cucaracha, ya no puede caminar, ya no puede caminar, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar, marihuana que fumar, marihuana que fumar. Ya no puede caminar. Oh, 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 puede caminar.
C'était les cafards. C'était les cafards avec le mythique morceau La Cucaracha. La Cucaracha, voilà, c'est la chanson que chantaient les migrants mexicains au tout début du XXe siècle, qui partaient aux États-Unis pour trouver du travail et qui chantaient donc La Cucaracha. No puede caminar, no tiene marihuana, es marihuana que me falta. Voilà, donc ce qu'il disait, c'est que je ne peux pas marcher, je n'ai plus de cannabis à fumer. Voilà, c'était ça, la chanson des migrants mexicains début du XXe siècle aux États-Unis. Voilà, donc on va maintenant s'intéresser un peu à la conduite automobile et plutôt sa répression par les forces de l'ordre. Pas la répression de la conduite, mais en tout cas la répression de l'usage du cannabis au volant. En fait, je ne sais même pas si c'est vraiment ça qu'il faut dire. Moi, je dirais plutôt la recherche de fumeurs, y compris ceux qui sont au volant d'un véhicule.
Bah, c'est la mise au ban, c'est toujours l'agression de cette petite minorité de fumeurs à qui qu'on accuse de tous les maux.
Ouais, parce que là, si on connaît.
L'article sous-tend que c'est deux fois plus dangereux de conduire une automobile après avoir fumé, mais ça veut. Tout dire et rien dire, parce que c'est un peu vrai, si on fume un gros pétard, que ça augmente un petit peu le risque, et ça peut le multiplier par deux, ce qui quelque part n'est pas très très fort, puisque c'est pas plus fort qu'un jeune conducteur, c'est pas plus fort que vous êtes un peu fatigué, ben vous augmentez aussi votre risque, vous avez pris des médicaments, vous augmentez aussi le risque par deux... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui augmentent le risque par deux.
Puis en plus, c'est même
alors
pas
après,
deux.
Après, c'est cumulable, c'est ça le...
Je crois que c'est pas deux, c'est pas 1,8, non, exactement.
Alors ça, c'était l'étude...
Stupéfiant et accident mortel de la circulation routière.
Mais là, il se réfère à une autre étude de 2015 que...
Qu'on sait pas laquelle.
Que nous ne connaissons point.
Oui, puis alors, nous, on connaît quand même pas trop mal le sujet, du coup, on arrive à lire... un peu entre les lignes et on se fait pas trop impressionner par ces pourcentages... sont données là. En l'occurrence, on nous dit à un moment que 23% des personnes décédées sur les routes en 2015 ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Alors, si on en reste à ça, on se dit oulala. Sauf qu'en fait, c'est effectivement vrai qu'ils ont pris des stupéfiants et qu'ils ont bu de l'alcool. C'est que c'est pas du tout pareil finalement.
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qui est en dessous de la réalité parce que dans les stupéfiants, ils ne comptent pas les médicaments qui sont
en
aussi
plus, ouais.
Des stupéfiants. C'est très compliqué, c'est très 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 subjectif évidemment. Ils l'avaient fait cette expérience pour essayer de prouver que le cannabis était vraiment dangereux et du coup, ils l'ont rangé dans un tiroir juste après l'avoir sorti parce que ça montrait que c'était pas si dangereux que ça.
Voilà.
Alors après, ce qu'il faut rajouter aussi quand même, c'est que l'alcool, elle, ça multiplie par 7 le risque. Donc vous voyez qu'on n'est pas par 2, hein, on est par un facteur 7. Et ce qui est surtout très gênant, c'est que ça augmente. C'est-à-dire si vous avez bu, vous êtes à 0,8 ou 1 gramme d'alcool, donc vous multipliez par 7 ou 8 votre risque d'avoir un accident. Si en plus vous avez fumé un pétard, vous multipliez par 2, donc ça fait une multipliée par 16. Si vous êtes un jeune de 18 ans, vous multipliez quoi,
pas
et
un
vous
peu
êtes
plus
de
encore,
sexe
ouais.
Masculin et que vous venez d'avoir le permis, vous multipliez encore par 2 et par 2. Donc là, vous multipliez par 24 le nombre de la chance d'avoir, voilà, malchance d'avoir un accident.
Mortel. Sous l'emprise de stupéfiants.
Donc voilà, et ces chiffres et ces théories de multiplication sont assez vraies. C'est-à-dire que plus on multiplie les risques, plus ça se multiplie le risque. Voilà, et c'est les risques a priori se multiplient bien par rapport à chacun des facteurs.
Voilà, donc en fait tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que d'après cet article dont on vous parle, donc c'est un article du Parisien du 17 avril, tout ça pour dire que, pour rappeler, hein, parce qu'on l'a déjà dit en fait, ça n'a rien de nouveau, mais tout ça pour rappeler que voilà, maintenant les forces de l'ordre vont avoir des tests
salivaires beaucoup plus faciles à utiliser, beaucoup
voilà.
Plus fiables, qu'ils ne seront pas obligés de vérifier.
Confirmé par un test sanguin, voilà.
Par un test sanguin, donc voilà, ça va être très 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 compliqué et donc...
très facile pour les forces de l'ordre pour vous détecter.
On a 11 millions de contrôles d'alcoolémie, on avait 100 000 contrôles de stupéfiants et cela devrait augmenter rapidement.
T'as dit combien de pourcents de... 11 millions de tests d'alcoolémie t'as dit?
Oui.
Ah, j'avais compris 11 000.
Et excuse-moi. Pour 100 000 contrôles de stupéfiants, voilà. Et ceux-là sont en train d'augmenter.
Donc ils veulent voilà, en faire plus pour que ça se rapproche du nombre de tests d'alcoolémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau de cet article ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, donc, ça va être beaucoup plus simple à faire et à revérifier. Donc ça coûtera moins d'argent, ça c'est sûr. Et ça peut autre information importante, c'est que ça peut dépister une consommation plus ancienne. Alors ça, on n'insiste jamais assez, et en tout cas nous on insiste beaucoup, hein, c'est-à-dire que il y a quand même pas mal de gens qui contactent le cirque parce qu'ils sont poursuivis pour justement une consommation suite à un test salivaire.
Tout à fait. Donc, on a eu le cas récemment dont on a entendu parler de quelqu'un à qui on avait enlevé le permis pendant 2 mois, si j'ai bien entendu ce qu'on nous avait dit.
Ah, je ne me rappelle pas, mais oui, c'est possible.
Et il a été repris en récidive, et là, ça a été l'annulation pure et simple du permis. Voilà, donc c'est quand même assez inquiétant, parce qu'on sait que ce n'était pas un danger de la route, d'autant plus qu'il avait fumé plusieurs jours avant.
Voilà, alors, justement, c'est là où je voulais en venir. Donc, comme je disais, il y a pas mal de gens qui contactent le cirque par rapport à ce problème-là, suite à un test salivaire, et qui disent « mais moi, je n'étais pas sous l'emprise du cannabis au moment où on m'a fait le test ». Et oui, c'est sûr, les tests peuvent détecter une consommation plus ancienne, parce que le test ne détecte pas que du THC, mais il détecte aussi du THC-COOH. C'est quoi le THC-COOH ? Ben, c'est juste en fait la dégradation dans l'organisme du THC. Donc quand il y a dégradation et qu'on détecte le THC-COOH, c'est bien la preuve qu'on n'est pas sous l'emprise du cannabis quand on conduit. Sauf que pour le législateur, peu importe en fait que cette trace soit ancienne ou récente, ça suffit pour incriminer les personnes en fait. Je vais même pas dire les automobilistes, hein, parce que à ce moment-là ils sont même pas sous l'emprise. Donc ça n'a rien à voir avec la conduite automobile. En fait, c'est comme le dit le cirque depuis 10 ans maintenant. Hein, ces histoires de détection de tests au volant, c'est surtout pour choper du fumeur. Et ça n'a rien à voir avec la sécurité routière. Voilà. Ça aurait à voir avec la sécurité routière si on poursuivait vraiment les gens qui étaient contrôlés positifs au moment où ils conduisent. Et pas parce qu'il y a une trace ancienne. D'ailleurs, là, il y a une discrimination avec l'alcool, parce qu'au bout de 3 jours avec l'alcool, on ne peut pas savoir que vous avez fumé avant. Et de toute façon, que vous avez bu avant, pardon, excuse-moi. De toute façon, c'est légal. Bon.
Ouais, mais après, si les gamins agités, ça reste à quelques jours quand même.
Oui, mais bon, là, pour le cannabis, c'est plus pareil.
Oui.
Là, c'est quand même très ennuyeux. Voilà, en fait, nous, tout ce qu'on réclame, c'est que les lois sur le cannabis au volant soient les mêmes que pour l'alcool au volant.
Voilà, qu'il y ait des seuils, oui, mais des seuils raisonnables, qui soient plutôt. Donc, ce qu'on disait, à 3,8 nanogrammes.
Par litre,
voilà, comme c'est ce que préconise l'Europe plutôt que les 0,2 nanogrammes par litre qu'on a actuellement en France.
Exactement. Voilà, ouais. Donc en fait, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, vas-y. Ouais,
non, en fait, voilà, je voulais dire que juste, en fait, ce que le cirque exige, hein, c'est qu'il y ait vraiment des études sérieuses qui soient effectuées sur le sujet, que soit évaluée bien sûr avec sérieux l'influence du cannabis sur la conduite, où on mettrait effectivement en place des études en conditions réelles, en double aveugle, avec des individus expérimentés et novices. Voilà. Et on propose également que les capacités à conduire un véhicule soient véritablement mesurées en pratiquant des tests d'aptitude et d'équilibre, comme ça peut se pratiquer dans certains pays, notamment aux États-Unis ou au Canada. Et oui, parce qu'en fait, le nombre de grammes, c'est pas uniquement ça qui peut déterminer si vous êtes apte à conduire ou pas, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Donc faites gaffe. Maintenant, quand vous prenez la route, évitez de fumer au volant, en fait, surtout. Hein, parce qu'il y a quand même des policiers qui repèrent des automobilistes...
Juste à l'odeur,
hein, faut pas...
Voilà, des policiers en moto qui remontent des fils de voiture et à l'odeur... Voilà, donc
méfiance avec ces tests salivaires. En tout cas, si vous êtes contrôlé positif et que vous êtes poursuivi, prenez un avocat. Voilà, et si possible, un avocat qui s'y connaisse en droit pénal et qui s'y connaisse en termes d'infraction, la législation sur les stupéfiants et la sécurité routière.
Voilà, il faut rappeler aussi que si on refuse de se soumettre aux tests, ça équivaut à un test positif. Donc, il faut le savoir aussi. Et enfin, tous les usagers de la route sont concernés, y compris les cyclistes.
Y compris les cyclistes.
On rappelle l'article, j'en ai pas encore entendu beaucoup de personnes se faire contrôler en tant que cycliste. J'ai pas vu beaucoup de cyclistes non plus souffler dans des ballons, mais je pense qu'il doit bien y avoir quelques cas en France où c'est arrivé. Et voilà, selon
je pense que c'est quand même moins probable. Moins probable quand même.
Voilà, pour continuer, ben, toujours dans la répression française,
et oui.
Le tout carcéral français, c'est un dispositif coûteux, obsolète, inefficace et injuste. C'est par Pierre Alzonceau et c'est dans Libération.
Alors oui, en fait, c'est une interview du sociologue Didier Fassin. Didier Fassin qui est un sociologue quand même réputé, qui travaille sur les politiques publiques liées à la répression des délits, donc qui est prof à New York aussi, je crois. J'ai pas mis son CV dans la revue de presse, dans l'article, mais bon. Et en tout cas, voilà, qui répond à une interview effectivement de Pierre Alonso, un article qui est, je trouve, très intéressant, que je vais vous lire, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Donc, ça commence comme ça, hein. Contrairement à ses voisins, la France punit toujours plus et plus particulièrement certaines catégories sociales, comme le souligne donc Didier Fassin. Selon le Conseil de l'Europe, le nombre de détenus pour 100 000 habitants est en France de 98,3. Taux d'incarcération qui a la particularité d'être en hausse constante et qui est ainsi supérieur à celui de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de l'Italie, mais un peu moins qu'en Espagne. Alors donc voilà, Didier Fassin répond à cette interview. Ah oui, non, mais oui, j'ai son CV, qui est professeur de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study de Princeton et qui a écrit récemment « Punir une passion contemporaine » paru aux éditions du Seuil en janvier dernier et qui décrypte donc dans cette interview l'inflation carcérale que connaît la France.
Alors, donc, faut-il lier l'augmentation du nombre de détenus en France à celle de la délinquance ?
Alors, il répond que dans la plupart des pays occidentaux, l'inflation carcérale n'est pas corrélée à l'évolution des délits et des crimes. Elle est due à la criminalisation de faits jusqu'alors tolérés ou donnant lieu à de simples contraventions et à l'alourdissement des peines, notamment pour les récidivistes. Cette évolution s'explique à la fois par un sentiment d'insécurité dans la population, ou encore à l'impression de ne plus avoir sa place dans la société, et par l'instrumentalisation de ces anxiétés par les responsables politiques, ce qu'on appelle le populisme pénal. La réponse aux difficultés d'une partie de la population est en effet moins d'État social et plus d'État répressif.
Alors, cette inflation touche-t-elle de la même façon tous les délinquants sans distinction ?
Alors, non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toute la chaîne pénale est orientée vers la sélection de populations punissables et à l'inverse, de catégories à épargner. C'est-à-dire que le législateur ne cesse d'alourdir les sanctions contre la petite délinquance des milieux populaires tout en ménageant la délinquance dite en col blanc. Ainsi, dans les années 2000, les condamnations pour usage simple de cannabis ont triplé, n'en déplaise à tout un tas de politiciens et d'experts qui nous disent que...
Et à certains qui nous disent que, de toute manière, la lutte contre le cannabis est totalement dissuasive et elle n'existe pas. Eh bien, c'est faux, il y a quand même des gens en prison pour usage simple.
Voilà, donc les condamnations pour usage simple ont donc, de cannabis ont donc triplé dans les années 2000. Tandis que les condamnations pour délinquance économique reculaient d'un cinquième, et dans les deux cas, hein, sans rapport avec une évolution des pratiques concernées. Résultat de cette différenciation, dans la maison d'arrêt où M. Fassin a conduit ses enquêtes, la moitié des détenus étaient sans emploi et les trois quarts appartenaient à des minorités ethno-raciales. Et ce qu'il dit pas, et pas de col blanc dans la prison dans laquelle il a enquêté. Hein.
Tout à fait. Pourquoi aucun candidat à la présidentielle ne remet en cause l'incarcération comme seule réponse à la délinquance au moment où d'autres États européens ferment des prisons ?
Alors, le débat sur les questions de justice et de prison est presque absent de la campagne électorale. Alors, il est absent, hein, parce qu'on a vu que, voilà, en une semaine après, bon, ça n'a pas changé. Donc, absent de la campagne électorale, dont les protagonistes privilégient les problèmes de sécurité. Ce qui frappe, compte tenu des graves enjeux du mouvement punitif contemporain, c'est le manque de courage de la plupart des candidats. Les prétendants de droite surenchérissent dans la sévérité, le renforcement de la police, le rétablissement des peines planchers et la construction de dizaines de milliers de places en prison, de prison. De leur côté, les candidats de gauche prennent nettement leur distance avec le tout répressif dans leur programme, mais on ne les entend guère affirmer que le dispositif punitif actuel est obsolète, coûteux, inefficace, inapproprié et injuste. À la différence de certains de ses voisins, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou même la Grande-Bretagne, dont les gouvernements pourtant conservateurs ont fait le choix de moins de carcérales, la France, même sous un pouvoir de gauche, a continué de punir plus.
La prison remplit traditionnellement plusieurs fonctions, punir, éloigner, réinsérer, dissuader. La punition est-elle devenue son unique rôle aujourd'hui ?
Alors, dans le cas notamment des courtes peines, l'éloignement est temporaire et la réinsertion est impossible et la dissuasion est inexistante. La prison protège donc mal la société. Elle manifeste plutôt le désir de faire expier les fautes commises en infligeant une souffrance. Elle est une vengeance institutionnalisée, comme le disait le sociologue Émile Durkheim, mais aussi une façon de différencier les populations punissables, comme l'a montré Michel Foucault.
Ce moment punitif atteint un niveau tel que le châtiment est devenu le problème, écrivez-vous. De quelle façon ?
Dans la théorie juridique, comme dans le sens commun, le crime est le problème et le châtiment sa solution à la fois morale et légale. Or, dans le moment punitif contemporain, le châtiment est lui aussi devenu un problème, et peut-être même plus grave que ce à quoi on prétend qu'il remédie. S'agissant de la prison, à court terme, elle désocialise les individus et déstabilise leurs familles. À moyen terme, elle favorise la récidive et génère plus d'insécurité. À long terme, elle aggrave les inégalités et divise la société. En refusant d'énoncer ces vérités, hommes et femmes politiques portent une lourde responsabilité. Voilà, qui est bien envoyé, je trouve, voilà, de la part de M. Fassin.
On va vous laisser méditer quelques minutes sur cet article.
On dit 1, on dit 2, on dit 3, on dit 4, allez.
Voilà, c'était...
Extrême onction.
Voilà, tout à fait.
Un morceau qui a au moins 100 ans.
Baouka.
Voilà, alors...
Il y en a au moins 30.
Ouais. ou moins. Donc, on va en Suisse maintenant.
Ah ouais, vite fait. On va voilà, vite fait. L'association Legalize It.
Legalize It.
Qui vient de déposer un nouveau texte auprès de la chancellerie fédérale, donc suisse. Voilà, pour une nouvelle initiative populaire. Pour que on légalise
le cannabis à des fins récréatives, donc là c'est clair. Et pour comment aussi on perçoit des taxes sur la consommation, blablabla. Voilà, bon, bah, les Suisses qui tentent encore, hein, tous les 3-4 ans, ils essayent de faire passer une loi.
La dernière fois, c'était en 2008 qu'il y a eu cette votation. Donc,
ouais. Et donc là, c'est intéressant parce que dans cet article, on apprend que c'est peut-être pas passé en 2008 parce qu'ils n'avaient pas suffisamment. Clarifier le pourquoi du comment, on allait légaliser, on allait percevoir les taxes et tout.
Oui, oui, tout
c'est ballot quand même. Hein.
Ben,
c'est ballot,
voilà. Ouais. Et puis là, ben, ils rappellent bien que c'est interdit pour les mineurs.
Donc évidemment. Ils sont un peu plus précis. Quoi.
Ben, on a appris les différentes votations américaines, mine de rien, ont permis à ceux qui s'intéressent au sujet à affiner les arguments, à voir ce qui était mieux ressenti, à peut-être faire quelques concessions, parce que... On peut en faire, il n'y a pas de souci. Hein. On veut bien ne pas pouvoir fumer dans toutes les conditions, mais on veut pouvoir fumer tranquillement chez soi, comme tout à chacun. Peut faire ce qu'il veut, peut boire son verre de vin chez lui, ou son verre de gnôle, ou voilà. On veut pouvoir utiliser, en tout cas les fumeurs suisses veulent pouvoir utiliser la marijuana de façon responsable.
Récréative, mais responsable. Là, n'empêchant pas l'autre.
Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cet article ?
Que la culture collective pour ses propres besoins n'est pas non plus punissable, hein, ce qui serait une espèce de... ils n'en parlent pas là, mais ça sent un peu le cannabis social club là, dans cette petite proposition.
Le but, c'est toujours d'assécher le marché noir, toute manière.
Voilà.
Et donc, ils veulent se rapprocher de ce qui concerne de la législation sur l'alcool hein, pour le cannabis. Hein. Essayer d'avancer là-dessus. Il faut savoir qu'actuellement, en Suisse, un adulte pincé en train de fumer un joint peut s'éviter des poursuites pénales en s'acquittant d'une amende de 100 francs.
Voilà.
C'est un petit peu
contraventionnalisation
qui arrive quoi qui ouais. Avant l'heure.
Ouais, mais en même temps l'histoire de la contraventionnalisation, c'est toujours la contravention du primo usage.
Oui.
Le fumeur confirmé et régulier, lui c'est prison hein.
Oui, c'est toujours.
On est toujours là quand même.
Ça dépend toujours du juge comme toujours hein.
Oui,
c'est très bien que selon les régions et
les juridictions, oui.
Là, voilà. On n'a pas toujours la même peine.
Voilà. Alors, juste quand même, dans cet article, on nous rappelle quand même que déjà en Suisse, ils expérimentent depuis maintenant quelques mois la vente de cannabis thérapeutique. Et que là, en plus, dans cet article, on voit que le Fonds national suisse de la recherche scientifique cofinance un projet d'étude sur la vente régulière de cannabis dans la ville de Berne. Ce fonds national a dépensé 720 000 francs suisses. voilà, on nous dit qu'il y a entre 200 et 300 000 personnes qui fument régulièrement des joints en Suisse, que plusieurs villes voilà, se préoccupent actuellement de savoir quoi faire avec les consommateurs réguliers et que dans la ville de Berne, des scientifiques de l'université de Berne veulent tester la vente contrôlée dans des pharmacies. Et les participants à l'expérience actuellement en cours, qui peuvent toujours postuler, doivent être âgés d'au moins 18 ans, domiciliés à Berne. Ils doivent déjà avoir consommé du cannabis et dans ce cas, une pharmacie leur sera désignée. C'est presque uruguayen comme expérience.
Rappelons-le, en Uruguay, après avoir légalisé des social clubs, avoir légalisé une certaine...
La
possibilité de le faire pousser soi-même, et ben maintenant c'est en vente dans les pharmacies.
Ouais.
Voilà. Depuis peu, mais enfin c'est arrivé. Voilà. Ils ont mis du temps, c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi avant de mettre leur législation en place, mais qui a l'air de tenir la route. On va continuer à suivre cette expérience. Et là c'est le Canada qui a l'air de prendre un petit peu le même chemin que l'Uruguay. En tout cas, ils réfléchissent aussi beaucoup avant de le faire, puisque ça fait déjà presque 6 mois, 1 an qu'ils en discutent et que la législation devrait aboutir l'été 2018.
Voilà, donc c'est un article de France TV Info qui nous parle. Alors en fait, c'est un article sur ce que ça a changé aux États-Unis déjà. Mmh. Et effectivement, on n'oublie pas dans cet article de nous rappeler que d'ici l'été de l'année prochaine, le Canada, vraisemblablement, sous l'impulsion de son nouveau Premier ministre Justin Trudeau, devrait quand même mettre en place une légalisation. Faut savoir que Trudeau fait de plus en plus de mécontents au Canada. Hein. Faut pas l'oublier, c'est pas gagné non plus. Hein. Mm-hmm. Et il fait aussi des mécontents parmi les cannabinophiles et les militants qui commencent à dire « Oh, ça, faudrait que ça ne tarde pas trop » et que, en plus, la légalisation, elle soit bénéfique à tout le monde. Et pas que à des industriels ou à des labos ou je ne sais quoi. Alors attention. Alors,
voilà, le texte actuellement donc autorise des adultes à acheter du cannabis.
Ah, aux États-Unis là tu parles hein, oui.
Non, je parle au Canada dans le texte qui
ah prévoirait oui excuse-moi
qui n'est pas encore voté mais oui, qui est en train d'avancer.
Mais pour l'instant bon.
Donc qui prévoirait d'autoriser les adultes à acheter du cannabis récréatif et à cultiver jusqu'à 4 plants et à poséter au maximum 30 grammes de marijuana dans un espace public. Voilà, donc c'est à peu près où ils en sont dans leur réflexion.
C'est-à-dire que c'est le brouillon.
Ouais. Oui,
ils en sont au stade du brouillon. Bon, parce qu'on entend ça, ce que tu viens de dire, hein, ça fait quand même des mois qu'on en entend.
Rappelons-nous, l'Uruguay, ça a été le premier pays à le décider, quelque part, à le voter, et après les décrets d'application ont mis presque 2 ans avant d'arriver, justement pour trouver la bonne législation, et c'est là que les États américains leur sont passés devant, comme le Colorado, ouais, comme le Nevada, comme ouais, différents pays.
Alors je trouve que c'est bien et de réfléchir donc, avant de faire une loi, c'est sûr,
oui, oui.
Il vaut mieux faire des brouillons avant
que de légaliser n'importe comment, ouais, à l'américaine, qui pour moi n'est pas la bonne solution, hein. C'est vraiment presque le rendre un produit un petit peu comme les autres. Alors c'est mieux que la prohibition, ça c'est sûr, mais je pense que c'est laisser, voilà, c'est le donner ce produit encore à l'industrie et qui va faire du profit, et c'est la recherche de tout le cannabis business actuellement aux États-Unis, qui rapporte d'ailleurs beaucoup, hein, 6,7 milliards de dollars, soit 6,3 millions d'euros. Hein,
milliards
d'euros, hein. Donc ça fait quand même, ça fait pas mal, hein. Et c'est quelque chose qui devrait encore être multiplié par 3, je crois, dans les années qui arrivent. Voilà, quand on regarde état par état, le Colorado, ça a rapporté jusqu'à 875 millions de dollars. Et l'état fédéral a lui, gagné 440 millions. Qu'est-ce qu'il y a, les taxes donc sur la vente sont à 25%, donc voilà, c'est ça quand même, ça rapporte. Bon, ça rapporte pas des revenus suffisants pour paver les rues de l'État avec de l'or, mais néanmoins ça a permis d'investir dans la santé ou l'éducation plus de 40 millions de dollars, donc ce n'est pas rien. Et ça a permis quand même à certaines écoles et à certains dispensaires d'avoir de quoi tourner. Et donc, c'est quand même plutôt bénéfique.
Oui, même si ce n'est pas la panacée, même si, comme tu dis, il va y avoir quand même petit à petit, sans doute, hein, on a déjà parlé aussi des grosses boîtes du cannabis qui vont se mettre dedans, ils arrivent quand même à faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Hein, c'est-à-dire que nous, on peut pas dire qu'on utilise l'argent, les taxes du cannabis pour financer des campagnes de prévention dignes de ce nom et efficaces. Impossible.
Il n'y a pas d'argent du cannabis, il ne va qu'aux mafias. Voilà. Alors certains diront, ça permet d'acheter la paix sociale dans les quartiers.
Oh, mais c'est formidable.
Qui n'est même pas sûr d'être une totalement véridique. Voilà.
Une paix sociale qui coûte cher en meurtre et en sang versé quand même. Hein.
Voilà, mais c'est des arguments qu'on a déjà entendus.
Tout à fait.
Il faut pas les oublier.
Mais laisse-moi rajouter que, à mon avis, les prohibitionnistes sont les meilleurs alliés du crime organisé. Voilà, sous nous couvert de paix sociale, voilà, ils sont tous des gros hypocrites.
Les États à la tête duquel il y a des mafieux ou des gens qui profitent de ça sont les plus intenses défenseurs de la prohibition.
Tout à fait.
Voilà, donc qu'est-ce qui est-ce qu'il y a eu des gros changements dans la consommation? Donc l'ancien gouverneur du Colorado dit bah ça s'est beaucoup mieux passé que je l'avais imaginé. Donc ils n'ont pas vu de pic de consommation chez les adolescents, pas d'augmentation brutale des habitudes de consommation des gens. Ceux qui prenaient pas de cannabis avant que ça soit légal n'ont pas commencé à le faire. Voilà, il y a juste les consommateurs de cannabis qui ont pu enfin vivre, qui n'étaient plus considérés comme des délinquants. Et voilà, c'était des citoyens comme les autres, enfin. Et ce n'est quasiment que ce que demande la plupart des fumeurs.
Alors, par contre, dans l'état de Washington, les résultats semblent un peu plus contrastés. Hein. Donc, il y a des chercheurs de l'Université de Californie à Davis et de Columbia qui ont déterminé que la consommation des jeunes de cannabis des jeunes des 13-14 ans et des 15-16 ans aurait plutôt augmenté de 2 et 4%. Ce qui n'est pas non plus extraordinaire. D'autant plus que moi, je pense, encore une fois, que ces 2 et 4% qu'on trouve là, en fait, ils existaient déjà avant. C'est juste que n'étant pas dans une configuration légale, ils n'étaient pas comptabilisés puisqu'ils étaient juste invisibles. Et qu'une légalisation permet de rendre tous les invisibles plus visibles, finalement.
Voilà.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup plus. Donc bon, encore une fois, selon... dans l'article, là, comme quoi ça, il y aurait un bilan contrasté avec l'État de Washington, bah, finalement, pas tant que ça. Et, un peu plus loin, on nous dit que le nombre d'enfants ayant accidentellement ingéré du cannabis, la plupart sous forme de friandises, donc cette proportion aurait augmenté de 150% depuis 2014 au Colorado. Mais comme tu disais tout à l'heure...
C'est passé de 1 à 3.
Voilà, donc forcément, ça fait 150%. Donc les chiffres et les pourcentages, il faut se méfier. Il y en a certainement... on n'est pas passé de... on n'est pas passé de 3 000 à 150 000. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà. Et en tout cas, les parents qui ont fait traîner des friandises au moment de la légalisation dans un...
Ils se sont fait taper.
Je pense que ils ont compris la leçon et que ça ne se reproduira plus.
Si, ils ont fait quand même une chose, ils ont mis un taux maximum dans les friandises.
Oui, voilà, donc voilà, en fait...
Donc ouais. Du coup, ils ont à...
Petit à petit, la réalité fait que les pratiques, la loi, ça évolue, on régule. On expérimente et on régule, voilà, tout simplement, ce qu'on ne sait pas faire non plus.
Au Colorado, d'ailleurs, ce que les gens regrettent le plus, c'est que maintenant, il y a plus de touristes qui viennent pour fumer de la marijuana plutôt que pour voir les merveilles naturelles emblématiques du Colorado, ce qui est quand même dommage.
Ouais, mais moi, je ne suis pas sûr non plus. Je pense qu'ils font les deux. Ils fument des bons pétards, après, ils vont voir le Grand Canyon.
Enfin,
c'est quand même tellement plus sympa.
Pour finir sur cet article et pour essayer de passer au pays suivant, ce qu'on peut dire, c'est qu'aux États-Unis, l'opinion publique est en train d'évoluer et
très significative,
est de plus en plus favorable à la légalisation.
De manière très significative, oui.
Voilà, autre pays où ça évolue aussi, donc c'est l'Afrique du Sud qui autorise la culture domestique du cannabis. Et donc ça, c'est grâce à la pression de la Cour suprême du Cap-Occidental. Et grâce à elle,
grande victoire.
Elle a rendu une décision vendredi matin, donc
c'est tout récent.
C'était en avril, début avril. Qui cette décision permet la possession, la culture et l'utilisation privée de la marijuana à la maison. La culture domestique est désormais légale en Afrique du Sud.
La culture domestique du Daga, c'est comme ça qu'on appelle le cannabis en Afrique du Sud, enfin que les Rastafari appellent le cannabis le Daga, voilà, D-A-2-G-A.
Il y a la religion Rastafari qui est reconnue en Afrique du Sud. Et...
Voilà. Mais grande victoire pour l'Afrique du Sud, grande victoire, voilà. Et t'as vu, encore une fois, dans cet article, c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui dit que la légalisation, c'est aussi bien pour lutter contre le racisme, hein, parce qu'en fait, ceux qui se font surtout arrêter, c'était beaucoup des Noirs. Ah.
Bah, c'est ce qu'on
c'est un peu partout
moment,
pareil. Hein.
C'est une loi d'application raciste, même si elle n'est pas raciste intrinsèquement. Sa mise en fonction est totalement raciste, ça permet du contrôle social et ça permet la pénalisation des populations défavorisées, voilà. Comme on le disait très bien sur les prisons tout à l'heure.
J'ai retrouvé la phrase, hein. La pétition donc, qui avait été lancée par le mouvement Rastafari soulignait que l'interdiction du cannabis est injuste et incite à la discrimination des Noirs. Voilà.
Voilà, autre
ensuite,
pays
où ça avance
ça bouge,
bien,
c'est l'Australie.
Alors là, c'est encore en débat.
Mais les responsables australiens parlent de plus en plus de la décriminalisation des drogues. Voilà, des politiciens, des officiers, des praticiens, des militants manifestent et travaillent pour que l'Australie évolue. Voilà.
Ah, l'Australie, c'est pareil, hein, c'est un grand pays et il se passe des choses... contrasté. Hein. Alors, effectivement, on sait que sur la question des drogues, ça avance quand même plutôt pas mal là-bas. Pareil sur dans certains États au niveau du travail sexuel. Ouais, dans certaines régions, ils ont autorisé des bordels autogérés par les travailleurs et les travailleuses du sexe. Ce qui est unique au monde, hein, franchement. Donc voilà. Par contre, faut pas être un migrant indonésien et vouloir arriver par bateau jusqu'en Australie. Là, ça craint quoi. Là, vous faites refouler.
Vous vous retrouvez sur une petite île enfermée sans aucun moyen de pouvoir partir.
Voilà, et là c'est pas possible, on vous dit non, vous pouvez pas entrer en Australie. Ils sont pires que nous, hein. Là-dessus, sur la question de des migrants, ils sont pires que les Français. Quoi.
C'est un peuple de migrants qui a, comment dire, on va dire zigouillé, hein, ou exterminé
oui, les aborigènes. Ouais.
Mais ils se permettent souvent de donner des leçons à d'autres, et ils sont surtout totalement anti-migrants, alors que ouais. Qu'ils sont contre eux-mêmes. C'est assez particulier, mais bon...
Mais ils sont très écolos aussi. Bref, ouais, vraiment, c'est comme partout. Toutes les grandes nations ont leurs qualités et leur
voilà,
tard.
Donc, ouais. Ils évoluent et ils se rendent compte que la politique qu'ils ont faite jusqu'à maintenant est inefficace et contre-productive. Donc ils passent à autre chose au niveau des drogues illicites. Et ça, c'est plutôt bien.
Et donc, voilà, ils débattent de légaliser l'ecstasy et le cannabis. Donc, ça, on verra, on va suivre ça. Et donc, prochainement, il pourrait y avoir cette prochaine bonne nouvelle.
Voilà, donc les législateurs ont le courage aujourd'hui d'essayer quelque chose de différent qui pourra en quelque sorte entraîner un changement de direction dans ce domaine particulier.
Ensuite, alors maintenant, à Washington... qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le comité sénatorial nord-américain, notamment la Chambre des représentants, dans le projet de loi 2064, suite à un projet qui a été déposé, eh bien, il va bientôt, ça va être tout à fait possible de cultiver du chanvre. Alors, c'est du chanvre agricole, hein, du chanvre a priori plutôt sans THC. L'objectif étant tout simplement de relancer la culture du chanvre industriel aux États-Unis et de faciliter son développement. Alors vous me direz, bon, du chanvre agricole, oui, mais il se trouve qu'avec le Marijuana Tax Act de 1937, on pouvait plus rien faire. Ah, c'est aussi ça le problème de la prohibition. Et notamment de la prohibition du cannabis psychotrope, c'est-à-dire en fait de la prohibition d'un seul des cannabinoïdes contenus dans la plante, c'est-à-dire qu'elle en a 111 ou 101, je crois. Et pour un cannabinoïde, donc le THC, on a tout interdit aux États-Unis et partout dans le monde.
Bah oui, ça servait les intérêts de
certains industriels.
Industriels comme les producteurs de
Nîmes. Du pont de Nemours, voilà. Donc voilà, cette fois-ci, bientôt, sans autorisation et sans limite de taille et de récolte, il sera possible donc de faire pousser du chanvre partout aux États-Unis, donc c'est avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, je ne serais pas étonné de voir que d'ici 15-20 ans, on nous dise que c'est la renaissance du chanvre partout aux États-Unis, même dans toute l'Amérique, j'ai l'impression, oui. Hein, je le sens. Hein. Et on sera les derniers, bien sûr, on n'aura toujours pas compris.
Voilà, juste, on passera donc sur toutes les lois fédérales donc, qui interdisent aux banques d'avoir de l'argent liquide qui vienne des producteurs.
Ouais,
alors,
un article de lesaffaires.com qui est un site de business canadien, voilà, qui nous reparle effectivement de cette difficile possibilité pour les tenanciers de boutiques au Colorado, aux États-Unis, de vraiment travailler et de faire fonctionner leur argent comme tout doux businessman, en fait, parce que, bah, voilà, à partir du moment où certaines banques s'engagent dedans, on peut les poursuivre pour blanchiment d'argent de la drogue. Il y en a qui hésitent et qui veulent pas, donc voilà. Il faut légaliser, il faut changer toute la loi partout aux États-Unis.
Et on parlera pas non plus de l'Albanie, parce qu'on a un très grand article de l'Albanie. Sur reporter.net, donc l'Europe compte un grand producteur de cannabis, l'Albanie.
Qui serait la Colombie de l'Europe.
On avait parlé d'une descente de police avec chars d'assaut, etc. à Lazara il y a un an.
Il y a deux ans.
Il y a deux ans, oui. Bon, là, et donc depuis, en fait, ça s'est répandu dans toute l'Albanie. Avant, c'était assez centré sur une région et maintenant, c'est à peu près partout. Et ça s'explique puisque un kilo de cannabis équivaut à 2 tonnes de blé, soit autour de 250 euros.
Ça fait pas cher.
Et sur
un
hectare, je crois qu'on fait beaucoup plus de kilos de blé que de kilos de cannabis que de tonnes de blé.
Voilà. C'est pas cher le kilo, hein. Je vais aller en Albanie.
Oui, ça fait 25 euros le gramme.
Hein ? Combien tu dis ?
25 euros le gramme.
Non, je pense pas, non. 250 euros le kilo, ça fait 2,50 euros le gramme.
Non. 1000, tu divises par 1000.
Ok,
si je suis
bon.
Sûr de moi, 0,25 centimes le gramme
d'air. Ah ouais. Ouais. Non, mais il se trouve que là, en France, actuellement.
Après, il faut le faire passer la frontière, c'est ça qui rapporte de l'argent.
Ouais, non, mais ça peut pas être moins cher que le kilo ici. Ça peut pas être plus cher que le kilo ici. Le kilo ici, c'est quasiment 3000 euros.
Ah oui, bah là, c'est 10 fois moins
kilo.
Cher.
Bah oui, là, c'est 250.
Ah oui. Voilà.
Bon, bref.
Moi, je te parlais du gramme à 0,25.
Oui, à 0,25, oui, et pas à 25 euros.
Ah oui, 0,25, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai fourché alors.
Donc ça fait même pas 2,50 euros, ça fait même pas 2,50 euros, c'est 25 centimes. 25 centimes le gramme. Donc
voilà, si tout à fait, excuse-moi, alors j'ai fourché.
Donc voilà, vous avez bien compris, vous avez bien compté, si vous voulez acheter du cannabis pas cher, allez en Albanie. Après, faites gaffe à ne pas vous faire zigouiller par les mafias.
Le poids du cannabis représentait un tiers du PIB.
Du PIB
en Albanie, et maintenant il va bientôt représenter la moitié
du PIB
en Albanie. Voilà à peu près tout ce qu'on voulait
Attends, encore une dernière chose, alors je vais pas revenir sur l'article de...
Vas-y, t'as une minute, parce qu'il y a encore une minute pour parler du 29 avril.
Donc du New Statesman, voilà, une interview de David Nutt, ancien conseiller du ministre sur la question des drogues, qui nous parle du fléau du spice, qui est ce cannabinoïde de synthèse qui, d'après M. Nutt, est même mortel. Pourquoi ? Parce que certains cannabinoïdes qui ont été introduits pour faire le spice sont extrêmement puissants, même en petite quantité, dit-il, et qu'on observe des décès, notamment chez des détenus et chez des SDF qui sont amenés à en consommer. Voilà. Et sinon, petite contribution d'un...
D'ailleurs, on a vu le cas en France il y a 2-3 ans. Voilà.
Et enfin, voilà, c'est toujours par rapport à cela, c'est une petite contribution d'un internaute sur Facebook qui disait « Attention, ce cannabinoïde de synthèse est un désastre sanitaire qui pourrait bien se produire en France bientôt. » Ces produits n'étant pas détectés par les tests antidrogues, ils ont vite été adoptés par les prisonniers anglais. En France, le développement des tests salivaires bien trop sensibles pourrait avoir le même effet pervers, c'est-à-dire sensible, mais ne pouvant pas les détecter. Et cet internaute nous dit que, bah, en fait, attention, mais ça a déjà commencé, alors pas en France métropolitaine, mais à Mayotte. Ça s'appelle la chimique, ce spice qu'on trouve à Mayotte, donc la chimique. Et comme c'est à Mayotte, ben, à Mayotte, et que c'est pas en France métropolitaine, tout le monde s'en tape. Mais ça peut tout à fait arriver. On a déjà vu un exemple à Annecy, comme tu disais, il y a 2 ans. Donc voilà, si vous êtes utilisateur de spice, d'après David Nutt, faites très attention quand vous en utilisez, parce que selon les sachets que vous pouvez acheter sur Internet, ils ne sont pas tous pulvérisés par le même genre de cannabinoïdes de synthèse, et certains sont très puissants et peuvent être très dangereux. Voilà.
Très bien.
C'est tout.
Voilà.
Et donc samedi, Marche mondiale du cannabis. À partir de 14h30, 15h, place Carnot, Lyon 2e, métro Perrache, pour aller donc de la place Carnot jusqu'à la place des Terreaux. Voilà, la marche mondiale du cannabis. Alors, c'est pas qu'à Lyon, c'est dans plus de 200 villes du monde. Ça sera aussi à Paris, 15h aussi, même jour. entre les deux tours des élections.
Dans le reste du monde, ça sera le premier week-end de mai.
Le 13 mai, pas le premier, le 13 mai.
Non, dans le reste du monde, ça sera le premier week-end de mai, c'est-à-dire que ça sera le 6 mai, mais seulement en France, à cause des élections présidentielles, ça va être soit le 29 avril
à Paris,
soit le 13 mai dans d'autres villes de province, comme à Poitiers.
Voilà, par exemple, mais aussi dans d'autres.
Voilà, voilà. Donc,
on vous attend nombreuses donc à la marche mondiale du cannabis samedi. Pascarno.
Ciao à tous, ciao à toutes.
Bonne soirée à toutes et au revoir à la semaine prochaine. Joyeuse marche mondiale du cannabis à tous et toutes.